Alors, bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à l'appel conférence de Pembroke. C'est la première édition d'une série d'appels que nous allons tenir au cours des prochains trimestres pour vous tenir informés sur l'évolution des marchés boursiers. Mon nom est Nicolas Chevalier, je suis un gestionnaire de portefeuille chez Pembroke, et aujourd'hui, nous parlerons plus particulièrement des marchés canadiens, puis prendrons quelques minutes à la fin pour répondre à des questions que vous nous avez soumises via votre représentant Pembroke. Pour suivre la présentation, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous rendre à notre site Internet français de Pembroke à www.pml.ca. Vous trouverez sous l'onglet « Actualité perspective » l'annonce de l'appel conférence d'aujourd'hui et un lien intitulé « Cliquez ici pour télécharger la présentation ». En cliquant, le document PDF y apparaîtra à votre écran. Alors, après l'appel, je vous encourage à contacter votre représentant Pembroke si vous avez des questions additionnelles ou pour laisser tout commentaire. Comme c'est notre première édition, tout commentaire positif comme négatif sera grandement apprécié. Évidemment, on préfère les commentaires positifs, mais uniquement si vous estimez qu'ils sont mérités. Alors, débutons sans plus tarder. Alors, si vous regardez votre présentation à la page 1, alors, vous allez voir que même si l'année 2018 n'est pas encore terminée, c'est pas une année qui va passer à l'histoire. Les marchés boursiers presque partout dans le monde affichent des baisses. Que ce soit en Asie, en Europe ou au Canada, tous ont connu des rendements négatifs. Le seul marché en territoire positif est les États-Unis, mais même là, le rendement positif est en bas de la moyenne historique. Pourtant, l'économie mondiale se porte bien. À la page 2, on sépare les rendements en leurs deux composantes principales, soit la croissance des bénéfices des sociétés et le multiple que les investisseurs sont prêts à payer pour ces bénéfices. En bleu, on remarque que les bénéfices des sociétés sont en hausse, variant de 4 à 5 en Asie et en Europe, et 15 au Canada et 20 aux États-Unis. Alors, les économies nord-américaines se portent généralement très bien, et les bénéfices des sociétés américaines sont en forte hausse à cause de la baisse, en partie là, des taux d'intérêt, des taux d'imposition qui ont diminué aux États-Unis. La partie en rouge qui pointe vers le bas représente la contraction des multiples courbes bénéfices. Dans tous les marchés géographiques, les multiples sont en forte baisse. À l'exception des États-Unis, la baisse des multiples a été plus forte que la croissance des bénéfices, avec le résultat net que les marchés sont en territoire négatif, qu'on a pu voir un petit peu plus tôt à la page 1. Si vous tournez la page, à la page 3, on présente les niveaux des multiples courbes bénéfices actuels comparativement à leur niveau d'il y a un an et par rapport à leur moyenne historique de 5 à 10 ans. Alors, les multiples sont non seulement en baisse année sur année, mais sont aussi plus bas que leur moyenne de 5 ans et 10 ans. C'est au Canada puis au Japon que l'écart par rapport à la moyenne historique est la plus forte. Alors, pourquoi cette contraction-là, étant donné que c'est un petit peu difficile à comprendre puisque les économies mondiales se portent pas mal bien? Essentiellement, ça vient du fait que les investisseurs ont peur d'une récession imminente. Il y a trois facteurs qui soutiennent cette peur-là. D'abord, les guerres commerciales puis le protectionnisme renouvelé. On lit tous les journaux ces jours-ci et ça fait à peu près un an qu'on parle de renégociation du libre-échange nord-américain, de barrières tarifaires additionnelles versus la Chine qui ont été implantées de la part des Américains l'été passé, puis des mesures additionnelles qui auraient pu être implantées en janvier, mais que juste hier ont été repoussées pour quelques mois encore. Donc tout ça, c'est évidemment pas bon pour l'économie. Le libre-échange est mieux. Même si le libre-échange crée des gagnants et des perdants dans chacune des économies domestiques, dans l'ensemble, pour l'ensemble de l'économie, le libre-échange, c'est positif. Certains économistes ont calculé que si les mesures tarifaires annoncées par Trump venaient être implantées, ça pourrait avoir un impact de 0,5 sur le PIB des États-Unis. Donc, c'est quand même matériel, mais dans une économie qui croît actuellement de 3 c'est pas une récession. Le deuxième point, c'est la hausse des taux d'intérêt qui pourrait tuer l'économie. C'est un point de vue qui est définitivement partagé par Trump. Il s'oppose assez farouchement via son compte Twitter et dans les journaux en général à son président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui veut augmenter le taux d'intérêt. Donc, c'est certainement un frein potentiel à l'économie, mais faut se rappeler encore une fois que le taux d'intérêt demeure quand même très bas par rapport à leur niveau historique. Puis, le troisième point, c'est juste une question comme quoi l'économie est en forte croissance récemment, mais surtout est en progression depuis tout près de 10 ans. Et puis, c'est la plus longue expansion, la plus longue période d'expansion. Donc, on est, juste pour cette raison-là, probablement dû à subir une récession bientôt. Donc, c'est un peu les trois éléments, soit les guerres commerciales, les taux d'intérêt, puis la période d'expansion qui alimentent les craintes des investisseurs. C'est pour ça que les marchés ont eu une contraction des multiples assez importante. Et ça se peut que le marché ait raison, ça se peut que le marché ait tort. Il y a un économiste américain gagnant d'un prix Nobel qui s'appelle Paul Samuelson qui a fait une citation qui demeure encore vraie aujourd'hui et qui dit que les marchés boursiers ont prévu 9 des 5 dernières récessions. Donc, ce que ça indique, c'est que le marché se trompe 4 fois sur 9 et puis a raison 5 fois sur 9, mais que le marché boursier est beaucoup plus volatile que l'économie sous-jacente. Donc, les multiples ont contracté, particulièrement pour le Canada. On a parlé des multiples qui ont baissé aussi, mais une des particularités du marché boursier canadien cette année, c'est que la corrélation historique avec le marché américain cessait de perdurer. Si vous retournez à la page 4, vous voyez la corrélation historique des rendements du S&P TSX Composite au Canada et du S&P 500 aux États-Unis. Historiquement, la corrélation est de l'ordre d'à peu près 70-75%, qui est en termes statistiques significatif, mais que récemment, cette corrélation-là baissait fortement. Puis ça revient un petit peu aux multiples qui ont contracté beaucoup au Canada par rapport aux multiples américains. C'est expliqué en partie, comme je disais tout à l'heure, à des craintes sur les guerres commerciales, particulièrement pour ce qui nous touche au Canada, la renégociation du libre-échange. Ça semble être pas mal derrière nous, ce qui est une bonne nouvelle. Et puis, l'autre élément, c'est le secteur de l'énergie canadien qui va pas très bien. Non pas que, récemment, les prix du pétrole ont baissé, mais de façon plus importante pour les producteurs canadiens, les différentiels ont augmenté de façon très importante entre le prix du pétrole obtenu par les entreprises canadiennes et le prix du West Texas Intermediate, là, qui est le prix essentiellement américain. On a vu, justement, ce matin, le gouvernement albertain annoncer des mesures pour réussir à essayer de réduire ce différentiel-là au cours des prochains mois, en prochaines années. Mais à long terme, la solution va se trouver en essayant de trouver des débouchés additionnels et des infrastructures de transport additionnelles pour le pétrole canadien. Donc, les corrélations ont baissé beaucoup cette année, mais normalement devraient continuer à être assez élevées, étant donné que nos deux économies sont très intégrées. Le Canada comme partenaire principal des États-Unis et vice-versa. Et puis, on l'a vu un petit peu plus tôt, la croissance des bénéfices est très forte dans les deux pays, puis se distingue par le fait qu'elle est très élevée pour ces deux pays-là, puis beaucoup plus que les autres économies. Donc, cette baisse de corrélation-là, on le voit à la page 5, résulte dans un phénomène que le marché canadien se transige à une forte escompte par rapport au marché américain. On le voit à la page 5 par la ligne bleue, qui a baissé énormément puis qui se retrouve à un niveau où est-ce que le marché canadien est un escompte important par rapport au marché américain. Ça, c'est vrai pour les indices, mais c'est aussi vrai pour nos portefeuilles chez Pembroke qu'on voit à la page 6. En bleu, la ligne bleue, vous voyez le rapport cours-bénéfice historique de notre fonds de croissance américain. En rouge, c'est le fonds de croissance canadien et le gris, c'est notre fonds de dividende. Donc, les multiples ont contracté un petit peu récemment aux États-Unis, mais se retrouvent pas tellement loin de la moyenne des deux, trois dernières années. Celui qui a vraiment contribué, qui a vraiment baissé énormément, c'est le fonds de croissance canadien, qui se transige à un niveau historique bas, certainement en bas de sa moyenne des 8 dernières années. qui a baissé énormément. Donc, nous, on pense que notre fonds de croissance canadien, en ce moment, se transige escompte. Il est en solde. C'est une solde peut-être avant les fêtes, mais le fonds est peu cher par rapport à son niveau historique. Et pourtant, le fondamental des sociétés demeure solide. On l'a vu tantôt pour la croissance des indices, la croissance des bénéfices des sociétés dans l'indice au Canada, mais c'est aussi vrai pour la croissance des sociétés en portefeuille. Si vous tournez à la page suivante, il y a un tableau passablement chargé, là, où est-ce qu'on liste les 20 titres les plus importants en portefeuille. Ces 20 titres-là représentent tout près de 60% du poids du portefeuille. Et pour chacun de ces titres, on représente la croissance estimée des revenus, la croissance estimée des bénéfices avant impôts, intérêts et amortissements, et plusieurs autres statistiques pour chacun de ces titres-là. Et dans le bas de la page, on fait le cumul de chacun de ces 20 titres-là pour en faire ressortir une moyenne et une médiane pour chacun des statistiques. Donc, les trois points peut-être à retenir de ce tableau-là, c'est d'abord, la croissance anticipée est toujours très bonne. La croissance estimée des revenus en moyenne pour les 20 titres est de 15,8% pour les 12 prochains mois. C'est nos estimés, on peut se tromper à la hausse comme à la baisse, mais ce qui nous encourage, c'est que c'est un chiffre quand même assez important, assez élevé, et quand on parle aux entreprises, les dirigeants d'entreprises sont pas mal optimistes par rapport à l'année 2019, certainement beaucoup plus que les investisseurs qui ont amené leurs titres à des niveaux plus bas. Le deuxième point qui nous encourage aussi, c'est quand on regarde et qu'on parle aux entreprises, il y en a plusieurs individus qui rachètent personnellement des parts dans leur propre société, que ce soit le CFO d'Equitable ou le CFO de Jamieson Labs, à qui on a parlé cette semaine, qui ont, dans chacun des cas, acheté entre 400 000 $ et 800 000 $ respectivement dans leur société. On voit la troisième colonne avant la fin, qu'en moyenne, les dirigeants détiennent 11% des sociétés dans lesquelles on est investi et que cette proportion-là, avec ces récents achats, est en croissance. Le dernier point, c'est quant au niveau d'endettement. Essentiellement, les titres en portefeuille, dans leur ensemble, n'ont pas de dette. Pour nous, c'est important parce que la dernière chose qu'on voudrait voir, c'est si le marché boursier a raison et qu'on entre dans une période de ralentissement économique, la pire chose à obtenir, à avoir dans son bilan, c'est de la dette. Au contraire, on voudrait avoir des entreprises qui sont en position d'aller sur l'offensive dans un ralentissement économique alors que tout le monde joue à la défense. Un des titres qu'on a en portefeuille depuis 20 ans, qui est Quincaillerie Richelieu, en 2008 et en 2009, alors que tout le monde avait la difficulté. Quincaillerie Richelieu a fait plusieurs acquisitions aux États-Unis, des acquisitions qui étaient peut-être controversées à l'époque, mais étant donné que c'était une entreprise qui avait beaucoup d'encaisses, pas de dettes, elle a pu permettre d'acheter des sociétés américaines à des multiples très, très dépréciés et puis aujourd'hui en retire les bénéfices. Donc, ces trois points-là, la croissance anticipée est toujours bonne et les discussions qu'on a avec les dirigeants par rapport à l'avenir est encourageante. Les initiés rachètent leurs titres et les entreprises n'ont pas de dette en portefeuille. L'autre chose qu'on regarde en termes de gestion de portefeuille quand les marchés bougent énormément comme ça, c'est d'essayer de tirer avantage des fluctuations des titres dans le portefeuille. Évidemment, les marchés ont baissé de façon générale, mais certains titres ont peut-être baissé plus que d'autres. Et puis, ça nous donne une occasion des fois de racheter des titres puis d'augmenter ou d'améliorer la qualité du portefeuille. Un exemple, bon, je parlais de Jamieson tout à l'heure que le CFO a racheté son titre, mais nous également, il y a deux semaines, on a racheté le titre en portefeuille. Ce titre-là avait baissé beaucoup. Jamieson est un fabricant et distributeur de suppléments et de vitamines, là, que ce soit chez Jean Coutu, Uniprix ou Pharmaprix. Vous avez probablement déjà vu leur bouteille verte. Et bon an, mal an, que ce soit qu'on soit en récession ou pas, les gens consomment généralement la même quantité de suppléments et de vitamines. Donc, nous, c'est un titre qu'on a rajouté beaucoup en portefeuille, puis on est peu inquiet d'une récession potentielle. L'autre titre, par exemple, qu'on a racheté, c'est celui de BRP la semaine dernière. BRP est dans un secteur très cyclique, on s'en cache pas. Vendre des motos marines puis des motoneiges, c'est une dépense très discrétionnaire. Par contre, le titre a baissé énormément, puis les discussions qu'on a eues au cours des derniers mois avec l'entreprise nous font croire que l'entreprise continue à gagner des parts de marché importantes. Donc, même si peut-être l'économie ralentit, on est confiant que l'entreprise peut continuer de croître malgré un ralentissement de par ses gains de parts de marché. Si on regarde à la page 9, que les marchés soient à la hausse ou à la baisse, sur un horizon très long terme, en tant qu'investisseur, on ne peut pas vraiment contrôler que les marchés montent ou baissent. Quelqu'un qui est investi dans les marchés boursiers doit s'attendre à ce que ça soit volatile. Comme gestionnaire, par contre, si on fait une bonne job, qu'on focus sur les compagnies qui affichent une croissance séculaire, qui ont des bons bilans, qui ont une équipe de direction qui est pleinement investie dans leur société, on pense qu'à long terme, ça résulte en une valeur ajoutée pour nos clients. Et c'est ce qu'on voit à la page 9, où est-ce qu'on a pris chacune des périodes de 10 ans depuis 1974 et c'est des périodes de 10 ans calculées à tous les mois. Donc, il y en a eu 396 de celles-ci. Puis les rendements de Pembroke ont été des fois à la hausse, des fois à la baisse en absolu, mais on a toujours ajusté de la valeur par rapport à l'indice. Donc, ce qu'on peut contrôler, on essaie de le faire, mais ce qu'on ne peut pas contrôler, c'est-à-dire la volatilité des marchés, malheureusement, faut vivre un petit peu avec. Donc, en conclusion, les rendements cette année sont décevants, certainement au Canada, mais probablement partout dans le monde également, peut-être à l'exception des États-Unis. Les rendements négatifs sont dus principalement par rapport à la compression des multiples. On est convaincu que notre fonds canadien, notre fonds de croissance canadien, est en vente en ce moment. Les discussions qu'on a avec les dirigeants d'entreprise, leur comportement, nous indique que peut-être qu'il n'y aura pas de récession. Il y a des bonnes chances qu'il n'y ait pas de récession l'année prochaine. Et puis pour les clients, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on pense que c'est un bon moment pour rebalancer un portefeuille. Avec la sous-performance du marché canadien par rapport au marché américain, on pense que c'est une bonne occasion pour rebalancer un portefeuille, pour rajouter un petit peu d'actifs au Canada. Et si vous avez des liquidités additionnelles, c'est évidemment de les allouer au Canada plutôt qu'aux États-Unis ou ailleurs. À l'inverse, quelqu'un qui est un peu inconfortable par rapport à la volatilité des marchés, qui a la difficulté à supporter cette volatilité-là, c'est peut-être une bonne occasion pour vous de vous asseoir avec votre conseiller Pembroke et puis de repenser votre plan s'il y a lieu. Donc, ça conclut un petit peu la présentation. On a eu une question qui nous a été envoyée par courriel par rapport aux investissements de Pembroke dans le cannabis. Et c'est une bonne question parce que c'est certainement un des secteurs étoiles du marché canadien cette année. Pembroke en a pas bénéficié de par ses portefeuilles parce qu'on n'a fait aucun investissement dans ce secteur-là. Pourquoi? Bon, d'une part, on pense que c'est un marché avec des titres qui étaient passablement spéculatifs. Les sociétés, jusqu'à récemment, n'avaient pas de revenus et aussi n'avaient pas un modèle d'affaires encore éprouvé avec une structure de coûts connue, les marges bénéficiaires connues, etc. Donc ça, c'est le point principal pour lequel on n'a pas investi. C'est un marché spéculatif. Également, quand on analysait l'industrie en profondeur, et bien qu'il y ait une pénurie de produits présentement, quand on analyse les plans de production de chacune des sociétés, on se rend vite compte que dans 2 ans, il va y avoir un excédent d'offres par rapport à la demande. Et évidemment, ça l'augure moins bien quand il y a un excédent de produits pour les producteurs. Donc ça, c'est l'autre point. Et le dernier point, c'est qu'on pense que les marges, bien qu'elles ne sont pas connues encore tout à fait très bien pour ces entreprises-là, on pense que ça va être très difficile pour ces entreprises-là d'obtenir des marges très élevées parce qu'à la base, c'est un produit principalement d'agriculture qui est très difficile à différencier. Il existe peut-être une certaine différenciation, mais c'est très limité parce que les entreprises ne peuvent pas faire la publicité ou bâtir une marque notoire pour ce qui est de tout ce qui est le cannabis fumé. L'an prochain, si le marché alimentaire et de breuvage est déréglementé, ça va être encore plus vrai. Le cannabis va servir d'ingrédient à toutes sortes de breuvages, comme peut-être une forme de bière ou une forme d'autres breuvages. Donc, quand on pense à un Molson, ce qu'on achète, c'est la bière Molson. C'est pas nécessairement le houblon ou l'orge qui sert d'ingrédient dans ce breuvage-là. On pense que c'est un peu la même chose qui va se produire quand le cannabis va être inclus comme ingrédient dans certains produits de consommation. Donc, je réitère un petit peu mes propos du départ. Si vous avez des commentaires positifs ou négatifs, n'hésitez pas à nous les faire part via votre représentant Pembroke. Et sur ce, je vous remercie de votre participation, de votre écoute. Et soyez à l'affût de peut-être un prochain appel conférence qu'on va faire sous peu. Merci bien.